Je sais pas.
Ah! Oh. Qu'est-ce que c'est?
Bon, je m'habille, donc on va rentrer en ville.
Ce qui arrive, Tanguy, il y a du monde qui t'en veut.
Hey, Fournel, toi, t'es maudit de affaires, Fournel.
Fournel, Fournel, c'est le premier épisode de...
Anti-gang.
De... Non, arrête. Écris ça dans ton journal.
Ouais.
Ils vont avoir la guerre. Ils commencent. C'était la guerre. Là. C'est le premier épisode de Omerta. C'est un revival des séries policières québécoises. Puis on s'est mis à regarder ça pendant juste avant de commencer l'émission. Puis finalement, je pense qu'on a plus envie de regarder le premier épisode que de faire l'émission.
Ah, alors, je propose.
Je propose. Ben, je propose. C'est 45 minutes en tout. On le part. Puis on voit quand c'est fini. On pourrait commenter en direct ce qui se passe. Mais c'était une autre époque quand même. Il y avait.
Ça allait bien à cette époque-là.
Le monde de la télé.
Oui, écoute, un million l'épisode d'Omerta. Puis non seulement ça, rappelez-vous,
À l'époque, en plus, le 2x4 coûtait pas ce qui coûte aujourd'hui.
Mais ils ont tourné comme plusieurs épisodes, puis ils ont tous scrappé.
Ils ont tout recommencé.
Ouais. Ben parce qu'ils n'aimaient pas ça. Puis c'est une autre compagnie de production.
Ils ont changé de réalisateur. Ça a été le bordel.
Ouais. Oui, il y a eu toutes sortes. Oui, c'est ça.
Ils ont recommencé.
Puis, dans ce temps-là, un million l'épisode. Mais là, aujourd'hui, 29 épisodes, c'est un million.
Ouais. Je veux dire. C'est exagéré, mais quand même, c'est fou parce qu'on est en train de... Je veux dire, il y a des négociations partout pour augmenter les salaires au coût de la vie, mais je veux dire, c'est fou parce qu'avec la télé, tout ce que ça a fait, c'est que ça a descendu. Mais rapidement,
oui, rapidement. Attendez, à l'époque, on faisait peut-être 10 séries par année. Là, on en fait 40 000.
Ah, ben oui, ça, c'est
on fait la tarte, aussi.
On
la
fait 40 000,
non,
tant
non,
que ça.
Mais là, non,
pas. Puis surtout, on fait beaucoup d'émissions de rénovation, tu sais.
Non, mais on parle.
Ça, on pourrait s'en passer.
La fiction, la tarte est rendue très grande. Tout le monde prend une petite pointe, bref. Une pointe moins grosse.
Exactement, exactement. Bon, mais le vrai sujet qui m'intéresse aujourd'hui, c'était pas tant ça, c'était Céline Dion.
Mais ben là, je veux juste quand même...
Pardon, merci. Oui?
Je veux quand même souligner qu'aujourd'hui même, une grande dame du féminisme...
Ah, on va pas partir avec un monstre qui est décédé.
Non, absolument, mais vous avez tout à fait raison. C'est juste qu'on a Hugo Dumont. On commencera pas à parler de ça avec lui. Ben,
Gloria Steinem, 92 ans, figure très importante du féminisme deuxième vague du féminisme, c'est ça, dans les années 60. Elle est décédée à 92 ans et j'espère que je vais toffer jusqu'à cet âge-là.
Elle a été très utile.
Elle a été utile
jusqu'à 92 ans, Nathalie. Alors pourquoi vous voulez... C'est pas la Tim Curry du féminisme, selon toi.
On oublie ça.
Vous étiez bien fâché qu'il meure.
Là, puis je vois que Tim Curry avait beaucoup de fans.
Il était britannique.
Et c'était juste une icône. C'est vrai que le premier trans à l'écran, ça a l'air que c'est.
Bon, parlons de ça. Céline Dion.
Oui,
parlons de trans. Parlons de vedette. Céline Dion, qui est à Paris, là. C'est suivi de très près. Hein. Quand elle sort de son hôtel, on en parle. Puis là, il paraît-il qu'elle donne une leçon de style aux Parisiens. Vous avez vu ça?
Mais elle donne-tu une leçon de style aux Parisiens?
Je ne sais pas. Elle a des grosses lunettes en
dessous.
Elle
n'est pas olympique. Hein?
Qui a dit ça, qu'elle donnait une leçon de style?
Mon Dieu,
je pense que c'est le Journal de Montréal.
C'est le Journal de Montréal.
Ah, okay.
Le même qui nous apprenait que le secret du pâté chinois de José Lito, c'était le bouillon de poulet.
Ben, c'est fiable.
Ben oui.
Ah non, ça, c'est le secret de Bernard Fortin. En tout cas, peu importe.
Non, mais c'est un défilé de mode sur le trottoir. Et moi, je trouve ça assez spécial de l'avoir chanté pour un petit chien qu'elle voit passer. Genre, Hector.
Racontez-moi, c'est quoi ça?
Ben, elle sort pour aller répéter ou sur l'heure du dîner, puis elle revient le soir. Ouais, mais elle reste sur le trottoir pendant des heures.
Des heures de charrie.
Il y a quelqu'un qui a posé une question sur le Népal, je voulais mourir.
Sur le Népal?
Le Népal est comme, oui, j'aimerais beaucoup le visiter. Ils sont comme, oui, non, il y a une catastrophe.
Voilà. Tu n'as pas dit t'es que kayak?
Ben non.
Alors que là, ça aurait peut-être été aussi utile.
Et là, il y avait un fan qui avait un petit chien qui s'appelait Hector, puis elle s'est mis à chanter une tonne au petit Hector. J'étais comme, c'est assez, là. Rentrez dans le bain, là.
Non.
Cachez-la, là.
Le
mythe est mort.
Ben voyons donc, vous allez la voir la semaine prochaine.
Oui, mais on veut la voir renaître de ses cendres comme ça, comme un phénix.
Faut vider le foyer.
Tu vas pas la voir faire le trottoir. Elle fait le trottoir.
Non, mais je trouve que ça brise un peu le mythe de la star.
Mais non, elle a toujours fait ça.
Elle est tellement accessible. Mais non, elle n'est pas accessible.
Je sais qu'elle n'est pas accessible, mais elle a toujours fait ce genre. Ben, elle est accessible pour tout
le monde. Elle n'a pas signé d'autographe parce qu'elle ne veut pas prendre des stylos pour ne pas attraper des microbes.
Non, mais c'est
elle ne prend pas de photos avec les fans. Elle s'explique pendant des minutes et des longues minutes pour dire.
Tu expliques pourquoi est-ce qu'elle parle parce qu'elle ne peut rien faire d'autre.
Oui, mais pourquoi qu'elle peut. Parle en chantant.
Hey, les gens restent là 12 heures de temps à l'attendre.
Merci. Moi, ça me... j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
Ouais. Ben, moi, je pense que ça va être quand même... Ben, ça va être des grands spectacles, non?
Non, mais je sais pas.
Ah non?
Mais je sais pas. Est-ce qu'elle est en forme? Est-ce que... Elle bouge bien? Est-ce que son répertoire, sa voix, est-ce qu'elle est intacte? Il y a beaucoup d'inconnus dans cette histoire-là. Et c'est un mystère total. On ne sait rien de ce spectacle.
Donc, le premier, c'est quand?
Le 12, le samedi 12.
Donc, vous allez être là?
Je vais être là. Et je vais vous appeler la semaine prochaine. Oh, en direct de Paris.
Mais vous ne l'aurez pas encore vu?
Mais non.
Okay.
Mais je vais dire que c'est bon.
OK, bon, oui, ben, non, mais c'est bien sûr. Est-ce qu'il y a une première partie?
Il n'y a pas de première partie.
Oh.
Non?
Non.
C'est sûr,
ce
ça?
N'est qu'elle.
C'est vrai?
Je pense qu'on veut vraiment mettre toute l'énergie sur elle. Il va y avoir des invités spéciaux.
Ah.
Mais Céline, c'est pas du genre à amener une Adèle qui va être meilleure qu'elle.
Ah, ben c'est ça.
On va toujours un petit peu dans le garou.
Ah ouais, tu sais, comme. Peut-être Renault. Hein, Renault,
pas sûr qu'elle va s'éclipser.
Ben, je comprends. Ben, regarde, on n'est pas fous, là.
Non, c'est ça.
Je veux dire.
On va pas. Non.
Entre changer le nom du lac Ontario quand on n'est pas content puis crier fuck you, esti, à un adversaire qui nous dérange, c'est le temps que Céline revienne dans nos vies.
Oui.
Oui, oui. C'est la journée est encore jeune, c'est la première.
Ça, c'est pas chat, là.
Ah, non, c'est moi, ça.
C'est pas OK.
Oui, oui, c'est moi. Non, mais chat continue. Chat GPT continue à me donner des idées, mais j'ai bien compris que je peux pas me fier sur lui.
Les gens, ils ça aussi.
Mon prompt est pas assez développé.
Ouais.
Alors, il va finir par apprendre mon style.
Mais c'est surtout pas très bon, je m'excuse.
Ben non, je sais, il comprend pas mon style.
Oui, c'est ça.
Vous avez commencé. Vous avez entendu le petit rire de Nathalie Petrovski?
Le petit rire, quoi? Le petit rire.
Ben, vous avez. Voyons. sinon. Ben, Hugo est parmi nous également. Il y a Olivier. On va parler à Véronique Prince un petit peu plus tard pour parler de toutes les gaffes de nos candidats. Et puis du fuck you esti. Ça, c'est notre objectif.
Moi, je prends des gants blancs pour utiliser ce mot-là dans ma chronique.
Ah, moi,
vous y allez.
Je ne fais que
all-in.
Citer.
Est-ce qu'on peut l'entendre? On peut-tu avoir l'extrait?
Ça s'en vient.
Ça s'en vient, ça s'en vient, Nathalie.
Ben, vite, hein?
Vous voulez l'entendre là?
Ben, pourquoi
pas? OK, on va lui donner la place à Olivier.
Olivier Niquette.
Excusez-moi. Note pour les gens qui veulent écouter le prologue, je vous propose d'écouter ça à 14h30 sur l'application audio. Vous allez pouvoir entendre une partie du premier épisode d'Omerta. Je vous laisse là-dessus.
Vous pouvez écouter l'épisode carrément sur tout.tv aussi.
Non, c'est mieux d'écouter parmi nous.
OK. Ben, gros développement hier dans la guerre tarifaire entre le Canada et les États-Unis, alors que Bernard Drinville, notre ministre de l'Économie, a fait un Doug Ford de lui-même. Il s'est fâché contre Donald Trump. Ça a été présenté de différentes manières dans les médias.
Bernard Drinville perd patience face au président américain.
En entrevue à Cogeco Québec, il s'est permis d'envoyer promener le président américain.
C'est un terme pas très, très poli, et on s'entend.
Bernard Drinville a lancé une insulte à l'endroit de Donald Trump.
Sorti les gros mots.
Le candidat de la CAQ dans Lévis a utilisé des propos grossiers dans sa réponse.
Il a envoyé paître, on pourrait dire, le président Trump.
Il est allé de déclarations assez crues.
Le candidat, Bernard Drinville, est sorti de ses gonds aujourd'hui.
Monsieur Drinville a pété sa coche, comme on dit. Par chez nous.
Il a dit quelque chose comme fuck Trump.
Bon, c'est pas tout à fait ça, mais il est effectivement sorti de ses gonds en pétant sa coche au FM 93 dans l'émission de Sylvain Bouchard. Et là, c'est bien le monsieur qui veut imposer le vouvoiement et le respect dans nos écoles. Mais attention, la supervision des parents est conseillée.
Dans les demandes qu'il a faites là, à la fin de la négo, il y a une vraie volonté de dire « Toi, le Canada, tu nous appartiens. T'es à moi. » Ben, fuck you, aussi.
Oh!
Wow!
Vous êtes à Trump, là, ou à moi?
Non, c'est ça ma réponse. On n'appartient pas à Trump. On n'appartient pas à un autre pays.
Oui, on n'appartient pas à un autre pays. Il disait ça aussi quand il était au PQ, d'ailleurs. le co-animateur avait l'air de se sentir un petit peu
Visé. Mais oui, il prenait son
là.
Téléphone.
C'est ça,
il était parce qu'il ne savait pas trop, c'est embêtant.
Mais non, il parlait bien au président américain, qui ne me semble pas apprécié. C'est drôle parce qu'il y a 6 mois, M. Drinville se faisait lui-même traiter de Trump du Québec par les syndicats.
Déjà, le mouvement syndical dit que je suis le Trump du Québec là, parce que je propose la fin de la permanence pour les fonctionnaires. Ben, je m'en fous, là. T'sais, ils peuvent même appeler comme ils voudront.
Oui, donc il est passé d'indifférent à Trump, à anti-Trump, depuis que c'est un des gros sujets de la campagne, j'imagine. La première ministre a été appelée à réagir en direct de la halte douceur de Trois-Rivières. C'est quand même ironique. Il y a un journaliste qui lui a relayé les mots de son ministre avec douceur, justement.
Il a dit sur les ondes d'une station de radio.
Pauvre sa face.
F-I-U.
F-I-U.
Esti.
Si c'est ça qui a été dit, je pense que ce n'est pas un niveau de langage qui est adéquat.
Est-ce que vous lui demandez de s'excuser?
Ben, je lui demande de retirer ses paroles si c'est ce qu'il a dit.
Bon, il n'a pas tout à fait retiré ses paroles. Ouais. J'imagine que c'est difficile à retirer. En fait, il a dit « Les mots choisis étaient inappropriés, mais mon indignation demeure. » Et il a écrit ça sur X, le réseau d'Elon Musk. Ça aussi, c'est quand même ironique. Oui. Mais pas avant que tous les médias en parlent en usant de quelques stratégies pour éviter de répéter les mots de M. Drainville. À 24h60 à RDI, ils ont mis un bip, mais pas un bip qui cache tout. Écoutez bien.
Écoutons M. Drainville et la réaction de Christine Fréchette.
Il y a une vraie volonté de dire « Toi, le Canada, tu nous appartiens. T'es à moi. » Ben, fuck you aussi.
Oh! On l'entend parler. Ça enlève un petit peu l'utilité du bip, si vous voulez mon avis. C'est
en fait,
comme
ça nous alerte à être plus attentifs.
C'est comme avoir des rideaux transparents. Là. C'est pas super utile. Ils ont jugé que c'était correct de l'entendre, mais juste pas fort. Parce que ça choque moins, comme si je vous dis « Vous êtes un maudit cave. » Chuchotant. Ça passe beaucoup mieux qu'en le criant. Alain Laforêt de TVA, lui, a fait un petit détour.
Il a entre autres utilisé les propos en parlant de Donald Trump. F, you, et qu'est-ce qu'on reçoit lorsqu'on va à la communion?
Astucieux, oui. Astucieux. Ouais.
Une tape dans le dos.
Ou un bon pour de charité, peut-être. Ouais. Comment
on dit ça? La dîme.
La dîme.
Non?
Tu sais, pour avoir un retour d'impôt.
Est-ce
là?
Que c'est-tu là qu'on... Faut, on passe sur pause enregistrement?
On va couper ça. Karim Averick. Karim Averick à LCN, elle, il est allé avec un acronyme.
Il y a eu le « no way » de Mme Fréchette, mais là, il y a le « F-Y-E » de M. Drainville, comme quoi c'est payant quand même électoralement.
F-Y-E.
C'est quoi
qui...
le Y? Ah, ben
you.
Oui.
C'est quoi le F aussi?
Le F, ça va.
Ça veut aussi dire en anglais F-Y-E, for your entertainment, pour votre divertissement. Ça fonctionne aussi avec Bernard Drainville. Mais c'est vrai que la plupart des gens ont dit que ça pourrait être payant électoralement là, de dire ça, parce qu'il y a bien du monde qui a envie d'envoyer promener M. Trump. Ce qui n'est pas le cas de Jacinthe Varel à nouveau, qui a apprécié que Christine Fréchette répudie son ministre. Elle a peur, elle, que M. Trump soit en ce... Dans quoi on boit le vin à l'église?
Il a dit, en riposte là, aux menaces tarifaires de Donald Trump, le mot en F. Et ben, j'ai trouvé ça très bien. C'est très responsable de la part de Christine Fréchette parce qu'il faut savoir que la Maison-Blanche fait des brefages au président américain sur ce qui est dit. Ouais. On ne veut pas envenimer ce conflit.
J'aimerais savoir ce brefage-là. Le brefage du président de l'Iran, le Venezuela, Bernard le boulevard Charest. Ouais.
Cogeco.
En même temps, c'est pas impossible. Ça se peut qu'il soit breffé à ce sujet-là. D'ailleurs, Sylvain Bouchard du FM 93, qui est à sa deuxième controverse de la semaine, d'ailleurs, ben, il attendait avec impatience la réponse du président plus tard dans son émission.
Évidemment, on surveille, comme si on avait besoin de ça. Là. Le réseau Truth Social, tu vas te mettre là-dessus. Que Trump va répondre.
Ben, oui, mais j'ai bien hâte de voir quelle sera la réponse de Donald Trump.
Ben pas sûr s'il niaisait, mais toujours pas de nouvelles de ce côté. Il doit pas être à son premier élu régional qui l'insulte, mettons, M. Trump. À LCN, Emmanuel Latraverse, elle a mis tout ça sur le dos de la Radio de Québec.
Doug Ford sort de ce corps-là. Ouais. Je veux dire, je comprends là, que c'est... On est à Radio de Québec, il faut faire people, Il est quand même ministre de l'économie, de l'innovation.
Mon Dieu, j'ai...
La Radio de Québec avec un accent français, il faut faire people, away. Mais donc, plus loin dans l'entrevue, justement, M. Drainville avait évoqué cette idée-là en s'excusant, pas à Trump, mais au co-animateur.
Là, libéral du Canada.
Ce que j'ai dit, c'était pas contre toi. Là.
Non, c'était contre Donald Trump, j'ai bien compris, monsieur.
Ouais, on l'a compris. Ouais, bon, là, je pense que tout le monde l'a compris.
Je suis un peu
tout le monde l'a compris.
Je suis redevenu chroniqueur.
Je suis un peu choqué.
C'est parce que ça t'a rappelé tes années à la radio, au FM 80.
Ouais, mais c'est ça. Moi, j'ai été ici dans ce studio. Hein,
pendant un bon bout.
Et assis sur cette chaise-là. Alors, peut-être que ça a joué un peu.
Peut-être que ça a joué un peu. Il était influencé par le contexte. Là, si on lui avait parlé de Trump dans une halte douceur, ça aurait été très différent. Mais tout ça a donné une idée à Sébastien Bovet ce matin à RDI.
C'est l'ancien studio dans lequel il sévissait, Bernard Drainville, en compagnie d'Éric Duhaime. Oui, à une certaine époque, ils étaient co-animateurs d'une émission au FM 93.
Qui est maintenant son adversaire sur le chemin.
Peut-être que si on réécoutait ces émissions-là, on trouverait aussi des propos controversés de l'un et de l'autre. On fait d'une pierre deux coups.
Bon, je voudrais juste dire que...
On dirait qu'ils n'écoutent pas.
C'est ça. Je voudrais juste dire que je sais déjà fait tout ça. Là. C'est disponible d'ailleurs sur mon site web. J'en ai des heures et des heures. Mais ça semble plus émouvoir personne depuis que vouloir euthanasier des pro-vaccins s'est rendu acceptable dans le débat public.
Merci beaucoup, Olivier. C'est très, très motivant tout ça, n'est-ce pas?
C'est quoi une halte douceur?
L'entrevue du jour.
Vous savez quoi? On va demander à notre invitée qui elle-même n'a jamais, je pense, traité qui que ce soit de tous les noms. Véro Prince est avec nous, Véronique Prince. Bonjour.
Bonjour. Non, j'essaie de faire attention quand même.
Ben oui, le plus possible. Ce serait bien bête de s'insulter en journaliste. Mais c'est quoi la halte douceur?
J'en ai aucune idée.
Ah, c'est ça. Hein?
Mais je me dis qu'il faudrait que j'y aille.
Oui, écoutez, c'est théoriquement votre dernière journée dans l'autobus de campagne de la CAQ, c'est bien ça?
Je suis sortie de l'autobus de la campagne de la CAQ, mais savez-vous quoi? Demain, j'embarque sur celui du Parti québécois. Je vais faire tous les autobus parce que là, je me fais traiter de maudite caquiste. Demain, sur l'autobus du Parti québécois...
Vous allez faire traiter de maudite péquiste, j'imagine.
Ben, c'est ça. Ouais. Voilà. Ça va être comme ça pour chaque autobus.
mais là, vous n'étiez pas là lors de l'affaire Bernard Drainville, comme dirait...
Ah, mais je l'ai suivi, par exemple. J'en manque pas une.
Ah, c'est ça. Bon, comment ça s'est passé? Est-ce que vous l'avez... Parce que vous étiez quand même pas loin de l'entourage de la CAQ, là. Est-ce que ça a été monté par les journalistes qui ont décidé de rapporter les paroles ou à l'interne, juste ça, c'était déjà beaucoup quand même?
Ben, c'est pas le genre de choses que les partis veulent qui sortent au grand jour, là, même si en ce moment, ça peut être payant là, d'être contre Donald Trump. Là.
Oui, oui,
non, ben... c'est sûr que dans le débat actuel, avec les réseaux sociaux et tout ça, il y a comme une baisse du niveau de langage en général, là,
je dirais,
depuis un certain temps, de la part des élus. Mais il y en a plus particulièrement, comme Bernard Drainville, qui sont sans filtre. Alors, je suis comme pas si étonnée.
Ben, c'est drôle parce qu'on demande souvent aux journalistes d'être eux-mêmes et de sortir de la langue de bois, mais là, c'est peut-être que le milieu est difficile à trouver. Il faut laisser le temps aux gens de faire ce qu'ils veulent et de faire surtout n'importe quoi pour trouver le centre. C'est pas un peu votre faute, tout ça?
Parce que nous, on fouille, c'est ça que vous voulez dire?
Non, parce que vous, vous ressortez chacune des petites erreurs de nos politiciens.
Oui, mais savez-vous quoi? C'est pas tant les journalistes qui font ça. Peut-être que parfois, c'est coulé aux journalistes, là, mais il y a beaucoup des partisans et des militants de chacun des partis maintenant qui font ça, hein, qui se mettent à temps plein là-dessus. Là. Premièrement, ben, tous les partis politiques ont leur whiz kid, comme on dit. Là. C'est pas une grosse équipe de recherche. Là.
Non,
c'est des jeunes qui ont deux fois moins notre âge, qui sont habitués avec les réseaux sociaux qui fouillent à peu près tout puis qui sont en train de déterrer aussi à peu près tout. Mais il y a aussi le phénomène de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que maintenant, avec cette machine-là, tu peux dire, bien, trouve-moi là, tout ce que tu peux sur tel ou tel candidat, là, déterre-moi à peu près n'importe quelle déclaration, n'importe quel écrit des réseaux sociaux et tout ça. Et c'est devenu très, très facile après ça d'attaquer tes adversaires en coulant ça un peu partout, en révélant qu'un tel a dit ça, puis l'autre avait fait ça dans le passé, puis il y a un vieux secret ici. Et ça, je pense que pour les prochaines campagnes électorales, ça va quand même être un enjeu pour le recrutement. C'est-à-dire qu'on risque d'en voir de plus en plus des choses comme ça là, révélées au grand jour parce que c'est devenu tellement facile avec les nouvelles
technologies. C'est drôle parce qu'il y a Éric Duhaime qui est venu nous voir puis qui a un peu déploré ça, les fouilleux de poubelles, qui fait que chaque petite déclaration sont scrutées à la loupe. Encore une fois, ce que je suis en train de comprendre, c'est que vous allez vous laver les mains, encore une fois, de ce phénomène-là. C'est pas de votre faute, les journalistes.
Non, c'est pas de ma faute.
Parfait, ça
non,
c'est fait.
Désolé.
Excellent. maintenant que ça s'est dit, le vrai truc qui nous intéresse, vous savez, c'est que la campagne en ce moment est devenue presque une télé-réalité. J'ai l'impression qu'on fouille, mais on fouille les chicanes. Les chicanes entre différents candidats, entre chefs aussi.
Ouais.
Vous, est-ce que vous le sentez sur l'autobus de la CAQ et puis peut-être que vous allez le sentir aussi sur l'autobus du Parti québécois?
Oui, bien, surtout les autobus, parce que c'est très particulier comme campagne électorale. Moi, c'est ma quatrième, c'est la première fois que je vois cette dynamique-là où on a cinq partis qui sont quand même compétitifs, là, parce que les cinq partis ont des possibilités de faire élire des députés. Donc, quand vous pensez à ça, cinq partis multipliés par 127 circonscriptions, c'est à peu près 600 candidats là, qui se présentent. Et c'est un peu la course pour trouver... Les petites bébites de chacun. Puis ça, c'est un phénomène, comme je le disais, qui est pas nouveau, mais qui est accentué cette fois-ci. Puis là, étant donné qu'ils sont tous compétitifs, le but aussi, c'est de se faire des jambettes. C'est pas nécessairement toujours d'y aller avec le meilleur engagement du jour, parce qu'on se dit à la fin ce qui va être relayé sur les réseaux sociaux, ce qui va être relayé peut-être même dans les médias traditionnels. Ça va être justement les gaffes de tout un chacun. Et ça... C'est pas... Tu sais, t'as toujours le bon cop, bad cop, là.
Ouais.
C'est-à-dire que ce sera pas un chef de parti qui va faire ça. Ça va être un candidat qui va en dénoncer un autre. Et comme je le disais, c'est souvent un militant ou un partisan qui va amener ça sur la place publique puis qui va en dénoncer. Alors, c'est un peu, des fois, une petite guerre de ruelles. Puis oui, je le remarque beaucoup dans cette campagne-là.
C'est un peu triste parce que, vous savez, hier, on a reçu un candidat du Parti libéral, Benoît Clermont, qui nous parlait de la plateforme pour la culture du Parti libéral j'ai complètement oublié tout ce qui m'intéressait, ouais. C'est le fuck you esti de Bernard
Lavergne. Le problème, c'est qu'à la fin de la journée, c'est pas les engagements qu'on retient, c'est toutes les diversions comme ça. Puis ça, ça leur vole une journée.
En même temps, on parle de la CAQ, donc parlez-en bien, parlez-en mal, on en parle quand même. La réalité est qu'on doit, j'imagine, observer comment les chefs gèrent leurs candidats qui font des petites erreurs. Mm-hmm. On a vu beaucoup se débattre Éric Duhaime. Bon, en fait, on les a tous vus se débattre, les chefs, pour essayer d'excuser leurs candidats, candidates. Qui a le meilleur style jusqu'à maintenant?
Pour défendre ses candidats?
Ouais.
Oh, je te dirais que chacun, c'est laborieux, là. Ah ouais. C'est pas évident de défendre un candidat, justement, où tu te dis, Colin, comment ça qu'on l'a choisi, lui ou elle, là? Puis là, il faut que tu ailles devant les médias, puis que tu te dises, ben non, finalement, c'était quand même un bon choix. Mais, tu sais, souvent, c'est stratégique, hein. C'est-à-dire que, regardez, là, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui défend son candidat, François Gariépy, qui avait travaillé à Choix Radio X, bon, puis qui a pu tenir des propos dans le passé sur les ondes de cette radio-là. Il le défend jusqu'à la fin. Puis pourquoi il fait ça? Parce que M. Gariépy se présente dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré. C'est sûr que Charlevoix, historiquement, ça a toujours été un petit peu plus bleu, un petit peu plus péquiste. Beaupré, ça peut avoir des tendances parfois un petit peu plus conservatrices. Donc, peut-être que ce candidat-là, avec son franc-parler, va faire en sorte qu'eux se disent, bien, stratégiquement, on va peut-être être capable d'aller chercher le vote conservateur aussi dans ce comté-là. Mais c'est sûr que tous les partis politiques vont vérifier les antécédents judiciaires. Tu peux pas passer à côté de ça.
Ça va mettre la base, mais c'est vrai qu'ils peuvent parfois...
Tu vas vérifier les réseaux sociaux.
Ben oui, t'en échappes. En attendant, j'ai un dernier petit truc à vous demander.
Oui.
D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Là. Paraît-il que la Halte Douceur n'est pas un magasin de crème glacée? C'est plutôt un refuge pour itinérants en Trois-Rivières. Ça s'appelle la Halte Douceur.
Oh,
donc
okay.
Ça, c'est un message de Guy qui nous a
précisé
ça. Merci, Guy. Mais je termine avec les noms des autobus parce que là, vous les nommez vous-même. Vos autobus, j'imagine, vous devez donner des petits surnoms quand vous faites le changement.
Oui, c'est une tradition de faire ça. Ouais. Les autobus, les journalistes, ils ont toujours un nom. Il n'y a pas de logo, par exemple, en passant des partis politiques. Ouais. Voulez-vous que je vous fasse part des suggestions que j'ai reçues? Parce que j'ai demandé aux gens, là, on a besoin d'aide pour trouver des noms. Là. Donc, pour l'autobus de la CAQ, on m'a suggéré, parce que justement, Christine Fréchette ne veut pas s'identifier à la CAQ, il n'y a pas de logo de la CAQ nulle part, objet partisan roulant non identifié, ou l'autobus dont on ne doit pas prononcer le nom.
Ouais.
Pour le parti...
En même temps, ça pourrait s'appeler « Il n'y a pas de logo de la CAQ ». Ça pourrait être drôle aussi.
Ouais, ça c'est bon, c'est excellent.
Merci.
Pour le Parti libéral, on m'a suggéré le corps milliard. J'imagine que c'est pour le corps milliard. Ça doit être un péquiste qui a fait la suggestion. Mais les journalistes ont trouvé le nom, par exemple. Ils l'ont appelé le mic desk. C'est vraiment un inside, là, parce qu'il y a un candidat. Voilà.
Merci,
vous êtes bon. C'est en l'honneur de Michel Bureau qui se décrit comme un libéral péquiste.
Mic desk. Mais vous êtes chanceux. Ben, est-ce que je termine rapidement en rappelant aux auditeurs d'aller écouter votre balado qui est disponible sur audio pendant la campagne, le radar politique de Véroprince.
Oui.
Et on va se reparler de toute façon. Vous nous direz c'est quoi le nom du parti de l'autobus du Parti québécois bientôt. C'est peut-être comme le petit autobus fâché. On sait pas. je vous remercie énormément. On se reparle, Véroprince.
Ça marche. Bye-bye.
Le jeudi GI est une présentation de Claude. Pas comme dans Claude, l'intelligence artificielle. Là. Claude comme dans l'auditeur qui nous a écrit pour dire d'arrêter de faire des intros de chroniques commanditées. OK, Claude.
Claude.
Tu trouves pas ça drôle, Claude?
Non, il est fâché.
Oui, je sais. Bon, Nathalie,
oui?
Vous nous parlez de Anti-Gang cette semaine.
5 raisons pour regarder Anti-Gang.
Et pour re-regarder Omerta, j'arrête pas de le
on
dire.
On est rendu où, là?
Omerta, est à la fin. Et mon Dieu, il est pas là content, Michel Côté.
D'abord, toutes les raisons, je vais vous dire, toutes les raisons sont bonnes pour regarder Anti-Gang.
OK, mais vous en trouvez seulement 5.
Qui est ma quotidienne préférée. Mais pourquoi regarder cette deuxième saison? Parce qu'elle commence de manière explosive avec l'explosion du char de la sergente Caroline, explosion qui va emporter le beau bébé Adèle. Faire exploser un bébé dès le premier épisode, ça fesse dans le dash et à moins d'être un sans-cœur à tendance psychopathique, je vous regarde pas, c'est pas pour vous, votre cœur va saigner et vous voudrez absolument voir qui a fait ça, donc vous allez être accro dès le premier épisode. Moi, je trouve ça très habile de la part des 3 scénaristes, Judith Lucie, Nadine Bismuth, Annie Trudel, 3 dames qui adorent les bébés, mais qui n'hésitent pas à les sacrifier pour une bonne histoire.
Oui,
deuxième bonne raison de regarder Anti-Gang,
right?
Si vous êtes tanné d'entendre parler de la rage du raton, de la rage de la sauve-souris et de la rage de Pierre-Yves Laure qui a insulté une policière un soir de brosse à Québec, Ben, Anti-Gang est le parfait antidote. Troisième bonne raison de regarder Anti-Gang.
Ah, ça me semble faible quand même. Ouais.
Si vous n'êtes jamais allé chez Paris ou n'importe quel autre club présentant des danseuses légèrement ou pas vêtues, vous pouvez aller gratis au Quickie, le bar fictif de Léane Labrèche d'Or, voir des filles semi-nues qui font du pole dancing pour personne.
C'est parce
que,
personne.
Parce que la production n'a pas les moyens de payer des figurants. Ce qui est quand même mieux que le salon de coiffure de Léane l'année passée où il y avait un client aux 6 mois.
C'est vrai.
Quatrième
saison. C'est pour ça qu'elle a fermé, mais c'est ouvert un bar de danseuse.
Exactement. Quatrième raison de regarder Anti-Gang saison 2. Si vous vous ennuyez de la neige de février sale, que, alors que l'été n'est même pas fini et que vous avez envie de vous préparer à cette déprimante éventualité, eh bien, vous allez être servi parce que les 4 premiers épisodes ont été tournés dans le froid, la neige et l'hiver de force qu'on haït et contre lequel on est aussi impuissant que la gang d'Anti-Gang contre les Dead Shadows. Et les Arab Warriors. Dernière. Oh, j'ai du temps. J'ai du temps.
Ouais, bon, c'est jamais arrivé là, que vous vous finissez. C'est jamais arrivé de l'histoire.
J'ai toujours peur. Cinquième et dernière raison pour regarder Anti-Gang saison 2. Si à 19h, chaque soir...
Ah, juste avant après votre souper, puis votre vaisselle,
non,
puis juste avant votre petit bain
de soir de la semaine, alors que vous vous mettez à table avec votre bien-aimé à qui vous n'avez rien à dire, et que ça vous tente moyen d'entendre Mariana Mazza... Et que ça vous tente moyen d'entendre Mariana Mazza vous recommander un livre en hurlant!
Qu'est-ce qui se passe?
Ben non, c'est parce qu'elle était à la place d'Anti-Gang là, les dernières semaines.
Ah oui? Joke, en quotidienne? Mariana.
Oui, oui, au livre ouvert.
Il n'y a pas tant de livres que ça qui se publient.
En tout cas,
vous êtes inculte.
Toujours est-il, si tout ça arrive, Anti-Gang va sonner votre libération et enfin, vous allez pouvoir vous évader en paix. Merci, Anti-Gang. Ça commence lundi prochain.
Merci. Mais vous avez été payé
pour
ça?
Est-ce que tu peux dire Arab Warriors?
Arab Warriors.
Bon.
Ah, là, c'est un vrai jeudi.
Ah, là.
Oh.
Frigo est de retour.
Ah, oh, je te... Hey, mais... Est-ce que c'est votre dernière chronique pré-OD?
Non, pré-Céline.
Oui,
parce que là,
pré-Céline,
oui, mais pré-OD,
parce
qu'on a très hâte.
Mais là, vous allez vous mettre...
Ben, là, c'est...
Frigo. Bon. Est-ce qu'une vedette aujourd'hui paie encore ses tuiles, sa céramique, sa piscine, ses portes d'armoire, son ameublement de jardin? Quand on regarde Instagram maintenant, tes commandités, chaque personne qui existe dans l'UDA, une petite affaire gratuite qu'elle nous montre, je t'en ai.
Je comprends.
Vous
mais
avez de l'argent, payez-le.
Ben, c'est ça.
Donc, ça m'amène au chalet de Caroline Néron.
Chaque planche que j'achète, moi, je les achète.
Ben oui, mais c'est cher, le bois. C'est des idées. Oh, merci, bien mère, merci.
Cela dit, j'aimerais bien ça, moi, qu'un fabricant de cèdre m'appelle pour ses planches.
Dites non, là, on veut plus ça, des pancartes humaines qui font de la pub. Non. Bon, chalet de Caroline Néron.
Ah, ben là.
C'est la nouvelle émission de rénovation de Crave, qui va sûrement aller sur Canal Vie parce que tout est recyclé de nos jours.
N'est-ce pas?
Le chalet de Caroline Néron, elle rénove, évidemment.
Mais pourquoi?
Pour nous. Mais c'est ça, pourquoi? Moi, je regardais ça, ce chalet-là, elle l'a payé en 2019. Il valait 915 000 $.
Ouais.
C'est à l'Estérel. C'est pas dans un fin fond d'une campagne. C'est pas laid. Ça a été rénové plein de fois. La cuisine, il n'y a pas de toilette sèche. La cuisine, on pourrait tourner une émission de Curieux Bégin. Oh. Elle est neuve.
C'est vrai?
Mais là, Caroline, elle a trouvé la vie difficile parce qu'elle a failli faire faillite. Elle a perdu beaucoup d'argent. Elle s'est divorcée. Et ce chalet-là, Jean-Philippe, c'est son petit cocon, elle veut se reconstruire. Okay. Pauvre petite. En plus de son penthouse à l'île des Sorts qu'on voit beaucoup, mais par contre, dans le penthouse, truc de pro, n'achetez jamais de lavabo noir parce que quand Caroline Néron se brosse les dents, elle le cochonne avec la pâte à dents une seule fois, c'est terminé.
Ah oui, j'en ai un lavabo noir.
Moi
j'aime
aussi.
Bien ça.
Vous brossez pas les dents, vous, de toute façon, c'est ça.
Ça fait longtemps que j'ai arrêté de faire ça.
Mais c'est parce que là, ça s'inscrit après la maison intergénérationnelle de Marie-Pierre Morin, le chalet de Mitsou, la maison jaune de Karine Vanasse, la maison de rêve de Marie-Ève Janvier. Hey! C'est assez, là.
Oh oui, non, mais on en veut plus. C'est pas
mais
ma faute.
Je dis pas ça. Je fais comme Bernard Drainville, l'animateur.
Ah oui, c'est
pas mon. Bon, il y a déjà 2 épisodes en ligne. Il y en a 8 autres que moi, je regarderai pas.
Ah, voyons!
Parce que le chalet de Caroline Néron, il est déjà un peu quétaine, mais il est pas si laid que ça. Ouais. Moi, là, j'aurais sacré le bulldozer dans les statues balinaises. Il y en a partout.
Il y a des statues.
Mais tu sais, des grandes statues balinaises qui te donnent l'envie de, je sais pas quoi, de te défenestrer dans. Ouais. Parce que c'est quand même beau, là. Elle a une vue sur le lac.
OK.
Alors, les fenêtres sont assez hautes pour se défenestrer, ça ne vaudra pas la peine.
Non, on peut te défenestrer. On peut se défenestrer à dos tellement qu'ils sont grands. Bref! comment dire? Je regardais, j'ai des notes. Le designer est quétaine, il s'appelle Pierre Turbide.
Caroline Néron a vu un décor de style capteur de rêve. Bonjour, Toulouse, Pierre. Bohème, chic. C'est un désastre. Puis je la trouve un petit peu vulgaire quand elle parle, je vais le dire.
Bon, elle est bonne, excellente comédienne.
Elle est bonne en stade.
Excellente comédienne.
C'est ça, un jeu de jaillit. Ouais. Oh, niaiserie dans ces gangs, tout le monde est bon, là. Hey.
Wow. Ah, mon Dieu.
Bon, là, là. Oui, ouais, mais c'est ça. Mais
on est-tu en train de continuer?
Oui, oui. Non, non.
Non, non, non. Ah. On continue pas.
Non, non,
on
continue pas.
On continue.
Mais non,
pas.
Non,
enlevez vos écouteurs.
Il n'y a pas de problème, là.
Est-ce qu'on continue?
Mais non, ah! Voyons, Nathalie, il n'y a pas de problème. Suffit, là.
OK, d'accord.
Non, non.
Qu'est-ce qu'on fait?
Bon, on fait rien, on parle après l'émission, comme d'habitude.
Mais c'est ça. J'ai rien contre Caroline Néron, mais.
Mais non, mais j'ai c'est vrai qu'il y a des émissions comme ça, là. On n'enregistre pas, Nat.
Je vous truste pas.
Ben, il n'y a pas de problème. Vas-y.
Est-ce que vous avez entendu le jingle de Preuil?
Oui, on entend. Non, il n'y a pas d'épilogue. Il n'y a pas d'épilogue.
Ben non, il y en aurait. S'il y en avait un, on entendrait le jingle.
OK, d'accord.
Okay. Là, comme je te tutoie, je tutoierais jamais.
OK, donc je vais te dire fuck you, Esti, c'est
exact.
Ça? OK, voilà.